Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est une joie à chaque fois renouvelée de partager la parole de Dieu avec vous et d'être en votre présence. Je remercie Marc de m'avoir sollicité il y a quelques jours pour apporter le message. Toujours un challenge. Et j'ai l'impression que ça l'amuse. Marc m'a demandé si j'avais médité, si j'avais eu des révélations de Dieu pendant les vacances. Et je ne sais pas, je n'oserais pas prétendre que j'ai eu des révélations, mais il m'est arrivé de plusieurs expériences le mois dernier où impossible de dormir. Et à 2h, 3h du matin, j'étais sur mon portable à lire les tweets d'actualité, à voir ce qui se passe à Nice et ailleurs. Et un soir, ma femme se réveille et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Non, je lis les tweets. Et là, Dieu me parle à travers ma femme et me dit « Mais pourquoi tu lis pas ta Bible au lieu de lire ces bêtises ?» Et effectivement, j'ai compris que voilà, si Dieu m'empêchait de dormir à cette heure-là, c'est qu'il fallait que je passe un moment dans sa présence. Donc, merci ma chérie. Tu as été... l'ouvrière de Christ. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de nous. Nous. C'est-à-dire l'Église. L'Église de Christ. Et nous savons tous que Jésus offre un salut complet à toute l'humanité, mais qu'il exige aussi une repentance personnelle et individuelle de chacun d'entre nous. Il offre un pardon total à tout homme, toute femme, tout enfant, par sa grâce. Mais il faut que nous sachions que ce pardon n'est reçu que par notre foi. Le titre de ce message, c'est « La vie en Église ». Et le verset d'introduction que je voudrais vous lire, c'est Éphésiens 3:1, qui dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, c'est-à-dire nous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ce mystère, Dieu nous révèle, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Juste avant cette révélation du mystère, Paul écrit aux Éphésiens, juste dans le chapitre précédent, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Amen.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ça, c'est nous, c'est l'Église. Je vais donc aborder un sujet global, général, l'Église de Christ et surtout notre vivre ensemble dans l'Église de Christ. Parce que c'est bien beau de dire l'Église de Christ, mais comment vivre, comment participer? Comment être dans l'Église de Christ? Alors, je suppose que pour beaucoup d'entre nous, c'est une redite, en tout cas j'espère, mais il y a un proverbe russe que j'aime beaucoup et qui dit que la répétition est la mère de l'apprentissage. Plus on répète les choses, plus ça rentre. Et d'ailleurs, Paul lui-même dit aux Philippiens, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Répétons les choses. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta miséricorde, merci pour ta révélation dans nos vies, merci pour ton appel, merci de faire de nous des co-héritiers, merci de faire de nous des gens de ta maison, Seigneur, par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Amen. Alors, l'Église de Christ, s'il s'agit de l'Église de Christ. Tous les chrétiens savent que l'Église, c'est l'Église de Christ. On le sait tous. Cependant, dans les évangiles, est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne mentionne que deux fois clairement l'Église? Que deux fois. Dans les quatre évangiles, il n'y a que deux fois l'Église est mentionnée. C'est dans Matthieu 16 et dans Matthieu 18. Dans Matthieu 16, Jésus proclame au verset 18: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est un passage très connu. C'est la promesse de Jésus de bâtir son Église sur le roc de la profession de Pierre. Cette profession, c'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Attention, attention. Le roc n'est pas Pierre, comme beaucoup peuvent penser. Le roc, c'est la révélation de Christ donnée à Pierre par le Père. Juste une petite digression. Jésus nous donne une image de son Église comme étant essentiellement offensive, puisqu'il dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles ». Ça veut dire quoi? Que les portes de l'enfer ne pourront pas résister aux attaques de l'Église. L'Église est offensive. Juste, je ferme la parenthèse. Alors, on a vu que Jésus ne mentionne que deux fois l'Église clairement dans les évangiles, mais il y a dans Jean 17 une prière célèbre, la prière de Jésus pour ses disciples, qui est en fait la prière de Jésus pour son Église. Et dans cette prière, Jésus révèle le but de l'Église sur la terre. Le but de l'Église sur la terre. Marc, on a commencé à aborder tout à l'heure dans sa prière. Le but de l'Église sur la terre, c'est remplir le monde de la gloire de Dieu. C'est ça notre but. Je vous propose de lire Jean 17. Ça va être un peu long, mais on ne peut pas ne pas lire ce passage essentiel. Vous y êtes tous, Jean 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, mais comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux.
Amen.
Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai lu ce passage avec l'Esprit de Dieu, parce que je l'avais déjà lu de façon un peu particulière. Et honnêtement, j'ai pleuré quand j'ai lu ce passage. La première fois que je l'ai lu, je vous confie que j'ai pleuré à chaudes larmes. Dans cette prière, Jésus supplie Dieu pour que l'Église, en effet, il s'agit bien de l'Église, par de ses disciples et de ceux qui croiront par la parole de ses disciples, par de l'Église, son Église, Jésus prie pour que son Église soit marquée par les caractéristiques suivantes. Il y en a cinq. La première, c'est la gloire de Dieu. On voit ici que dans la prière, la gloire de Dieu est le principal fardeau de la prière de Christ. Dans le verset 1, le verset 4, le verset 5, le 10, le 22, le 24. La gloire de Dieu doit être notre principal fardeau. La deuxième caractéristique de cette prière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit tenir une place centrale dans l'Église. Ce ne sont pas les idées personnelles, les interprétations de chacun et chacune, ou pire, les traditions. Trop souvent, certaines églises ont comme pilier central non pas la parole de Dieu, mais les traditions. La parole de Dieu doit tenir la place centrale dans l'Église. Troisième caractéristique, Jésus insiste sur la joie de Dieu. Au verset 13, Jésus prie pour que sa joie soit complète dans ses disciples. Il ne prie pas pour qu'elle soit grandissante ou qu'on soit rempli. Il prie pour que ses disciples soient complètement remplis de la joie de Christ, de Dieu. Le quatrième point, c'est l'unité dans l'amour de Dieu. Dans cette prière, Jésus prie quatre fois que ses disciples soient unis dans l'amour de Dieu. Et clairement, il s'agit d'une union au sens relationnel. On ne parle pas d'harmonie, on ne parle pas de cohésion, on parle vraiment de relation. Nous devons être unis au sens relationnel de nos relations dans l'amour de Dieu. Et enfin, la cinquième caractéristique de cette prière, c'est l'envoi dans le monde. Jésus mentionne 19 fois dans sa prière le mot monde. 19 fois. Il nous révèle ainsi que son Église, elle est envoyée dans le monde comme Jésus a été envoyé dans le monde. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde, elle est haïe du monde, et elle est gardée par Dieu du malin. On a vu que la mission globale, la mission essentielle de l'Église, c'est que le monde croit et que la gloire de Dieu soit vue partout, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et ça, c'est notre mission. Et si nous ne sommes, notre Église n'est pas centrée sur cette mission, on ne pourra pas dire que nous fonctionnons vraiment comme étant une Église de Christ. Ça va ? On va maintenant descendre de niveau et entrer dans un côté un peu plus pratique et quotidien de l'Église. C'est le rassemblement, ce que j'appelle le rassemblement. Aujourd'hui, on est rassemblés. Le mot « Église » dans la Bible vient du grec « ecclésia ». Dans le Nouveau Testament, qui a été rédigé en grec, « Église » est traduit par « ecclésia ». Et « ecclésia », littéralement en grec, cela veut dire « appelé hors de ».« Appelé hors de ». Et cette expression est l'expression familière utilisée pour désigner le peuple de Dieu. Le peuple appelé hors de. Mais Ecclésia est utilisé aussi pour présenter l'Église de trois manières différentes. Trois niveaux d'Église. Trois descriptions d'Église plutôt, pas de trois niveaux. Un, il y a l'Église universelle. Deux, l'Église locale. Et trois, l'Église de maison, dans la Bible. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants, morts et vivants, vivants sur terre et morts au ciel. C'est l'Église universelle de Christ. On peut retrouver cette désignation, cette présentation de l'Église universelle, par exemple dans Éphésiens 1, au verset 22, quand il écrit « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » C'est l'Église universelle. Ou encore dans Éphésiens 3, au verset 10, « Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, les morts au ciel. » Le deuxième niveau, ou la deuxième présentation, pardon, plutôt, c'est l'Église locale. Dans le Nouveau Testament, l'Ecclésia, l'Église locale, désigne tous les croyants d'une même localité, que ce soit une ville, une cité ou une région. Dans Actes 13, verset 1, il est écrit « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. » Dans Romains 16, 1, il écrit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Chrée. » Ce sont des villes. Ou encore dans Apocalypse, verset 2, au chapitre 2, verset 1, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. » Parle là d'église de ville. Vous avez bien compris que l'Église locale du Nouveau Testament ne correspond pas du tout à ce que nous appelons aujourd'hui l'Église locale. Nos églises modernes sont des fragments beaucoup plus petits que l'Ecclésia qui représentait l'Église locale du Nouveau Testament.
Sauf à Paris, c'est toute la région.
C'est comme si... oui, voilà, c'est l'Église de Paris ou l'Église... quand Paul écrit aux Corinthiens ou aux Galates, il écrit l'Église de Paris, il n'écrit pas l'Église FEA. Voilà. Troisième niveau d'Ecclésia dans le Nouveau Testament, c'est l'Église de maison, ou plutôt de maisonnée. La maisonnée est plus importante que la maison. À l'époque du Nouveau Testament, il il s'agissait plutôt de maisonnées qui fonctionnaient comme des communautés. Il faut savoir que les familles s'accumulaient dans les maisons. Un fils épousait sa femme, il vivait dans la maison de ses parents avec sa femme, avec ses enfants, avec ses frères, ses sœurs. Il y avait les animaux, il y avait toute une communauté. Il pouvait y avoir plusieurs dizaines de personnes qui vivaient sous le même toit. Et ça formait des communautés. Est-ce que vous avez vu le film Quo Vadis ? Non ? Je vous invite vraiment à voir ce film. Quo Vadis, c'est un film extrêmement intéressant, point de vue biblique. Et il décrit la notion de maisonnée, justement. On voit le héros qui vit avec sa sœur, avec sa mère, avec les serviteurs, avec les animaux. Enfin, il y a tout dans la maison, il y a une notion de communauté. Je vous invite vraiment à voir ce film, Quo Vadis. Les maisons étaient donc le lieu de rencontre des chrétiens. Dans Romains 16, au verset 5, Paul écrit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. » Dans Colossiens 4, au verset 15, Paul toujours écrit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. » Là, on parle bien d'Église de maison. Et donc, bien sûr, vous l'avez compris, ce que nous appelons aujourd'hui église locale se rapproche plus de l'église de maisonnée du Nouveau Testament plutôt que de la notion d'église de ville, de région ou de... l'église ou de région. Alors, il est aussi important de reconnaître que le mot ecclésia n'est jamais dans le Nouveau Testament utilisé pour se référer aux chrétiens d'une nation. Il n'y a pas de concept d'église nationale dans le Nouveau Testament. C'est important. Je voudrais maintenant aborder, toujours dans cette notion de rassemblement, les quatre principes fondamentaux, quatre principes bibliques fondamentaux, qui doivent fonctionner avant que tout groupe de croyants puisse être considéré comme une église. Il y a quatre grandes règles. La première règle, c'est le leadership. Il faut qu'il y ait une direction. Un groupe doit être dirigé. Il y a égalité de statut et de valeur de chaque personne, mais il n'y a pas d'égalité dans les fonctions. Et nous avons une direction, nous avons un pasteur, il dirige. Et chaque groupe, chaque église doit être dirigée. Christ est le leader et il délègue à des sous-leaders humains la responsabilité de prendre soin et de veiller au bien-être de ses membres. Ça, c'est le premier principe. Une église sans direction ne peut pas être une église. La deuxième chose, c'est la responsabilité de l'église. L'église doit accepter la charge complète que Christ a confiée à son église. On l'a vu tout à l'heure. C'est révéler la gloire de Dieu et que tout le monde croit. Mais ça passe par plusieurs domaines. L'adoration, l'évangélisation, l'action pastorale. Enfin voilà, il y a plein de domaines dans lesquels l'Église doit agir. Et avoir juste un ou deux buts, comme l'évangélisation, la délivrance ou la guérison, ne fait pas une Église de Christ à part entière. On a trop souvent des églises ultra spécialisées. Moi, j'ai connu une église spécialisée dans la délivrance. Elle ne fit que ça, de la délivrance, de la délivrance, de la délivrance, de la délivrance. Et clairement, pour moi, ça pose un problème. Ou des églises qui ne font que de la louange, de la louange, de la louange, et rien d'autre. Ou des églises qui ne font que de l'évangélisation. Il n'y a pas de cours bibliques, il n'y a pas de soins pastoraux, il n'y a rien. Et ça, c'est pas normal. On doit être équilibré, l'église doit être équilibrée et complète. Ça, c'est le deuxième principe, le principe de responsabilité. Troisième principe, pour qu'une église existe, il faut qu'elle ait des membres. On ne peut pas identifier une église si on ne peut pas identifier ses membres. Chacun doit savoir qui est ou qui n'est pas membre de l'Assemblée. Nos leaders sont appelés à former les membres au ministère. Il est donc essentiel de donner aux membres une forme visible, soit une liste, un listing, l'établissement, et aussi une parative. On doit avoir des membres. Et enfin, quatrième règle, c'est le partenariat. L'Église ne doit pas être un groupe isolé, coupé du reste du corps. L'unité et la coopération sont des aspects vitaux pour l'Ecclésia. On le voit, on le vit. On a des liens assez étroits avec l'Église chinoise. Alors, je ne connais pas son nom, on l'appelle l'Église chinoise, mais
l'Église
elle a...
L'Église protestante de Paris.
L'Église chinoise protestante de Paris, voilà. On a des liens étroits avec l'Église judienne. Alors, c'est, comment elle s'appelle, la sœur Dieppe? On dit
Foi
Espérance et Amour de Dieppe. Voilà. Nous avons des coopérations, nous avons, voilà, on reçoit des invités, on n'est pas coupé du monde, on n'est pas une petite secte isolée dans un hameau qui vit en autarcie. Il y a une coopération, il y a vraiment un partenariat avec d'autres assemblées du corps. Et ces quatre principes, donc je vous les rappelle, le leadership, la responsabilité, avoir des membres et le partenariat sont essentiels pour le bon fonctionnement d'une église. Par contre, il nous faut aussi être vigilants sur certains risques. Si nous voulons demeurer dans une compréhension biblique de l'église, il y a essentiellement trois risques liés à certaines dérives qui peuvent impacter le bon fonctionnement d'une église. Le premier risque, c'est le risque lié au bâtiment. Le bâtiment. Nous savons tous que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais trop souvent, on se conduit comme si le bâtiment était le cœur de l'église. C'est seulement ce qui se passe dans le bâtiment qui correspond à toute la vie de l'église. Trop souvent. Si ce n'est pas dans l'Église, ça ne nous intéresse pas. Cette mentalité restreint la vie d'Église, car la forme, la taille, la structure d'un bâtiment peuvent limiter, voire même empêcher certaines activités de l'Église. Une Église dont la vision est gouvernée par son bâtiment peut difficilement être considérée comme une Église biblique. Si on n'a pas de crèche, si on n'a pas de bureau pour recevoir... entretien et que du coup il n'y a pas d'entretien pastoraux, il n'y a pas de soins pastoraux, il y a un manque. Il ne faut pas que notre mission soit contrainte par le bâtiment. La deuxième chose, c'est le deuxième risque, c'est le risque lié aux réunions. Trop souvent, nous confondons l'Église avec les réunions de l'Église. Si l'Église est limitée aux réunions, alors l'Église cesse d'exister quand les réunions se terminent. Je vous ferai une petite illustration. Je faisais des courses il y a quelques jours et devant moi à la queue, il y a deux femmes qui commencent à se disputer parce que l'une est passée devant l'autre. Enfin bon. Et le temps monte et ça s'envenime. Et au bout de 5 minutes, il y en a une qui dit « Vous n'avez même pas demandé pardon. » Et l'autre qui répond « Moi, je ne demande pardon qu'à l'Église. » Je ne suis pas à l'Église, je ne demande pas pardon. Voilà. Tout se limite à l'Église. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas l'Ecclésia parce que nous nous rassemblons. Il faut comprendre que nous nous rassemblons parce que nous sommes l'Ecclésia. C'est pas l'inverse. Ça, c'est important à comprendre. Troisièmement, c'est le risque lié à l'organisation. Les structures, l'organisation. L'organisation, moi, j'ai un rôle pour mettre en œuvre les projets de l'Ecclésia, mais ne doit pas dominer l'Ecclésia. Une Église vivante doit sa vie à Dieu et non à une organisation humaine. Trop souvent, on veut transférer les structures du monde dans l'Église. Il faut faire attention à une organisation excessive. Moi, j'ai connu des églises où, pour Ne serait-ce que dire bonjour au pasteur, il fallait passer par 50 niveaux, 50 personnes, comme si le pasteur était un PDG inaccessible, où il y avait un barrage de secrétaires. Ça, c'est la dérive du monde. Il faut faire attention à des buts institutionnels qui peuvent remplacer les directions spirituelles. On a des schémas de développement, des schémas de croissance qui ne sont absolument pas guidés par Dieu. Il faut faire attention aux pratiques du monde qui s'insinuent et qui s'introduisent sournoisement dans l'Église. Et il faut faire aussi attention à l'ambition qui remplace le service. Trop souvent, on essaie de pallier des échecs personnels, professionnels dans le monde par une ambition dans l'Église. On veut être reconnu dans l'Église parce qu'on a échoué, soi-disant, dans le monde. Parce qu'on n'est pas reconnu dans le monde. Donc on cherche un accomplissement dans l'Église. L'ambition remplace le service. Donc là, ce sont les trois risques, trois défis que l'Église doit surmonter. Le risque lié au bâtiment, le risque lié aux réunions, et enfin le risque lié à l'organisation. Je voudrais poursuivre sur un élément essentiel de la vie d'église ou de la vie en église. C'est un moteur ou un carburant, tout dépend de quelle façon on le voit, essentiel à la vie d'église. C'est la communion ou la communion fraternelle. On a vu que dans le Nouveau Testament, le mot grec « ecclésia » signifie l'église avec ses différents description possible. Il y a un autre mot, qui est le mot koikonia, qui en grec veut dire littéralement partager ensemble avec un but bien défini. Et c'est ce mot qui est systématiquement traduit comme communion fraternelle. Koikonia, partager ensemble avec un but bien défini, un but commun bien défini. Dans Actes, au chapitre 2, verset 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la koikonia, dans la fraction du pain et dans les prières. » Comme ecclésia, koikonia se réfère à la relation que nous avons par la croix et par l'esprit avec Dieu et les uns avec les autres. Verticale et horizontale. Relation avec Dieu, relation les uns avec les autres. Et il faut vraiment qu'on comprenne quelque chose. La koikonia, la communion fraternelle, ce n'est pas le verre, le café qu'on prend à la fin du culte. Ce n'est pas le moment qu'on passe avec les frères et sœurs dans la semaine au cinéma ou le pique-nique qu'on fait. C'est pas ça la communion fraternelle. Ça c'est une marque d'amour, c'est une conséquence de la communion fraternelle. Mais si on déjeune ensemble après le culte, on n'est pas dans la communion fraternelle, on est dans un partage. La communion fraternelle, c'est autre chose et nous ne devons pas la réduire à ce simple moment agréable de partage. Alors, qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? La définition la plus simple de la communion fraternelle biblique, ce serait participer à quelque chose avec quelqu'un. Participer à quelque chose avec quelqu'un. Alors effectivement, quand on déjeune ensemble, on participe avec un déjeuner avec un frère et une sœur, mais ce n'est pas l'essence même de la communion fraternelle. Participer à quelque chose avec quelqu'un, ça implique qu'être ensemble est essentiel. Et ça implique aussi qu'avoir un but commun est la base. Être ensemble et avoir un but commun. Dans le Nouveau Testament, la communion fraternelle est décrite de trois manières complémentaires. Avoir part à quelque chose, avoir part à quelque chose, donner une participation pour quelque chose, et participer à quelque chose avec quelqu'un. Avoir part à quelque chose, il y a plusieurs exemples, j'en ai retenu que deux dans la Bible. Premier exemple, ce serait par exemple être partenaire dans une entreprise commune. Une entreprise, ça peut être une société, un projet commercial ou une initiative commune. On voit par exemple dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons, avec de grandes assistances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Un autre exemple, avoir part à une activité spirituelle. Je vous rappelle qu'on est toujours dans définition de la communion fraternelle, qui est avoir part à quelque chose, avoir part à une activité spirituelle. Quand dans 1 Corinthiens 10, il est écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» C'est la koikonia. « Le pain que nous rompons n'est-il pas la koikonia au corps de Christ ?» Participe, on a part à une activité spirituelle. Après avoir part dans quelque chose, la deuxième définition de la communion fraternelle biblique, c'est donner une participation pour quelque chose. La communion fraternelle est étroitement liée à la générosité et à la grâce. Dans Romains 15, verset 26, il écrit « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Là, le terme koikonia est utilisé. Ou encore dans 2 Corinthiens 9, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité. Dans le texte grec, c'est koikonia. De la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Donc c'est vraiment la notion de générosité de ton. Et enfin, la communion fraternelle, c'est participer à quelque chose avec quelqu'un. Et là, on a l'exemple dans Galates, au chapitre 2, où Paul explique sa relation et sa rencontre avec Jacques, Képhas et Jean, et il dit « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. » Ce passage utilise bien aussi le mot koikonia. Et il y a ici un symbole d'unité, un symbole d'association, un symbole de partenariat. Jacques, Jean, Céphas d'un côté, Paul de l'autre, mais ils sont partenaires, ils sont associés. Et il y a même sûrement eu un don financier pour la mission. La communion fraternelle n'est pas quelque chose que les croyants fabriquent ou créent par leurs actions ou leurs attitudes. La communion fraternelle est quelque chose que nous recevons de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, au verset 9, il est écrit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset révèle que l'initiative divine à l'origine de la communion fraternelle. Nous avons été appelés par Dieu à la communion avec son Fils. Alors, on a posé des fondamentaux, quelques fondamentaux, hein. Je n'ai pas la prétention de... juste quelques fondamentaux. Je voudrais qu'on entre enfin dans le cœur du sujet. Dans le Nouveau Testament, l'appartenance à l'Église ne peut pas être séparée de l'appartenance à Christ. Dans Jean 15, du verset 1 à 8, Jésus fait un enseignement sur la vie. Je vais le lire rapidement, parce que on va s'appuyer sur ce passage quand même pour aborder certains points. Jean 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retouche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche. Puis on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, on en revient, et que vous serez mes disciples. Dans cet enseignement, Jésus nous montre que nous faisons partie les uns des autres et que nous faisons partie de lui. Nous sommes tous liés. Le terme grec « meno » est utilisé dans cet extrait et il signifie « vivre continuellement dans quelque chose ». Ce qui est traduit dans ce chapitre par « demeurer ». Littéralement « demeurer » est écrit « vivre continuellement dans quelque chose ». Nous ne pouvons pas vivre dans le vrai cep, c'est-à-dire Jésus, sans vivre continuellement les uns avec les autres, c'est-à-dire avec les autres sarments qui vivent aussi dans le vrai cep. Le fait d'appartenir à l'Église implique qu'il y ait une relation collective avec Christ et les uns avec les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Nous devenons membres de l'Église par le fait de croire en Jésus, chaque croyant authentique étant automatiquement membre de l'Église de Christ, l'Église universelle. Et notre statut de membre de l'Église universelle doit s'exprimer par le fait d'être membre d'une Église ou d'une maisonnée locale. Quand on est membre de l'Église de Christ, on est membre de l'Église universelle, on doit appartenir à une Église locale. L'engagement dans une Église locale est une exigence de base pour tout chrétien. Trop souvent, Marc nous parle le dimanche aux chrétiens qui estiment vivre leur foi seuls, chez eux ou sur Internet. Ce n'est pas biblique. On ne peut pas être chrétien, appartenir à l'Église universelle et rester chez soi. Il ne peut pas y avoir de vie réelle dans l'Église sans engagement. Le corps ne peut fonctionner sans membres engagés et clairement reconnus. Nous sommes la force de travail de l'Église, nous tous. Et plus nous sommes engagés, plus cette force est importante. Dans Éphésiens 4, verset 16, on l'a vu, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, on parle de nous, nous soyons bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans Colossiens 2, il écrit, au verset 19, « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Ces versets sur le corps nous montrent que l'engagement chrétien ne fait qu'un avec l'engagement dans l'Église. Appartenir à Christ signifie être en union avec le corps, être joint au corps. Nous devons nous engager dans notre Église locale. Et pour ça, il nous faut une Église locale. Attention, si nous ne demeurons pas dans une assemblée locale, nous courons le danger de nous égarer spirituellement. Le diable, il aime bien les gens isolés. Moi, je regarde souvent avec Eva. Elle aime beaucoup les animaux et souvent on met des reportages sur les animaux sauvages. Et la stratégie des lionnes, vous savez que les lions ne chassent pas, ce sont les lionnes qui chassent. Les lionnes, elles chassent et la stratégie, c'est d'isoler une proie et un troupeau. Il faut d'abord isoler et ensuite on attaque la proie isolée. C'est systématique. Et ça fonctionne. Ne nous isolons pas et ne donnons pas, ne facilitons pas le plan de l'Église. Pour conclure sur notre appartenance à l'Église, rappelons-nous ces trois grands principes bibliques importants. Premièrement, chaque membre du corps de Christ est établi par Dieu. Dans 1 Corinthiens, il écrit « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Chaque membre du corps de Christ est établi par Dieu. Deuxième point, chaque membre du corps est dépendant, connecté aux autres et uni à l'ensemble du corps. On l'a vu, je vous le redis. C'est en lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et enfin, chaque membre du corps de Christ participe à la vie commune de Christ, la tête. Et ça, on l'a déjà lu, c'est dans Jean 15, du verset 1 et 8. Donc là, on a vu appartenir à l'Église. Maintenant, on va encore plus dans le détail, et je vais terminer là-dessus. C'est vivre en Église. Alors, on a tout ça, on a vu, tout ça c'est bien beau, on a tous ces équipements, tout ce que Dieu nous donne, mais qu'en est-il de nos relations fraternelles? On l'a vu, la vie chrétienne se vit en communauté. Et dans le Nouveau Testament, il y a une expression grecque qui revient et qui est utilisée plus de 100 fois. 100 fois. C'est « allélon » et qui veut dire « les uns les autres ». Cette expression est utilisée dans le Nouveau Testament plus de 100 fois. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi plus d'une cinquantaine d'exhortations ou de commandements précis liés au mot « allélon » et qui nous disent ce que Dieu demande pour que nos relations mutuelles soient conformes à sa volonté. 50 exhortations et commandements. Et certains impératifs reviennent fréquemment. Par exemple, aimez-vous les uns les autres est répété 16 fois dans le Nouveau Testament. Et parmi tous ces impératifs, on peut relever 16 fois, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillons les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, consolez-vous les uns les autres. C'est clair. Nous voyons donc à travers tous ces commandements, ces impératifs, ces exhortations, que la règle fondamentale est de nous aimer mutuellement. C'est une règle. Dans Romains 12, verset 10, il écrit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » Prévenance. On anticipe les choses. Dans Galates 5, au verset 14, il écrit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cette règle, donc, découlent des conséquences sur nos comportements et nos attitudes dans nos relations. On doit d'abord éviter ce qui blesse l'autre. On doit éviter l'offense. J'ai lu un ouvrage intéressant, j'ai oublié l'auteur, sur la stratégie de l'offense du diable. À chaque page, je me reconnaissais. Et je pense que si on le lit chacun, on se reconnaît. L'offense, évitons l'offense. Soyons attentifs à ne pas être une pierre d'achoppement. Si nous aimons, nous devons encourager, nous encourager les uns les autres. Dans 1 Thessaloniciens, il écrit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. On doit pardonner et supporter. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On doit rester unis. Ça, c'est dur. Hein. Je vous exhorte, frères, donc 1 Corinthiens, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On se doit de gagner le frère égaré. Ça, c'est l'amour. Dans Galates 6, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Combien de fois on détruit, combien de personnes je connais qui ont fui des églises par telle attitude, telle remarque, tel comportement. Moi, personnellement, ma première église, on ne comprenait pas que je ne vienne pas avec une cravate, qu'il fallait que je mette une cravate et une veste. C'était vraiment quelque chose de... Et on me reprenait à chaque fois. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Trop souvent on oublie ça. Et je vais conclure sur ce verset. Observez le commandement de l'amour est donc ce qui distingue les enfants de Dieu. Nous observons le commandement de l'amour. Il y a aussi un verset qui m'a interpellé, moi, quand je l'ai lu, c'est dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 18, il est écrit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Prétendre que l'on aime ne suffit pas. L'amour n'est pas sentiment, mais l'amour est acte. Parce qu'il s'agit de quel amour? De quel amour parle-t-on? Vous savez que le mot amour est traduit de 3 mots en grec dans le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre ça. L'amour, c'est pas l'amour philéo, qui est l'amitié, l'amour humain, un amour limité. C'est l'amour qui peut exister entre les membres d'une famille, c'est l'amour philéo. Ça, c'est l'amour qui rend. D'ailleurs, on rend cet amour parce qu'on le reçoit, on le rend. Il est qualifié comme ça, l'amour philéo. Je t'aime, donc tu m'aimes, donc je t'aime. Ce n'est pas l'amour éros, qui est l'amour physique, qui découle de nos sens, de nos instincts et de nos passions. L'amour éros est égoïste, temporaire et superficiel. Et c'est surtout l'amour qui prend. On prend l'amour éros, on ne fait que prendre. On ne donne rien, on prend. Mais c'est l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour profond et constant, l'amour décision. On décide d'aimer. On n'est pas dans du sentiment. Parce que là, c'est l'amour qui donne. Il ne rend pas, il ne prend pas, il ne fait que donner, quelles que soient les circonstances. Le meilleur exemple de cet amour est l'amour de Dieu pour l'humanité. Quand dans Jean 3,16, vous connaissez tous ce verset, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est aimer, agapé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là le genre d'amour que le Saint-Esprit désire manifester dans nos vies lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu. C'est un amour qui nous amène à l'aimer et à obéir à sa parole. Et c'est cet amour qui se manifeste aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. L'amour décision. Je peux ne pas avoir d'affinité particulière, c'est pas grave, un exemple, d'affinité particulière avec Denis. Je peux ne pas l'aimer amour Eros ou j'espère, l'amour filéo, mais je me dois de l'aimer de l'amour agapé. C'est mon commandement. En tant que chrétien, je me dois de l'aimer de l'amour agapé, même si l'amour filéo n'est pas là. C'est pas bien. Vous comprenez? C'est important de savoir de quel amour on parle. C'est pas de l'amour sentiment. Et l'amour agapé, bien sûr, on le retrouve dans 1 Corinthiens 13, que vous connaissez tous par cœur. On a toutes ces caractéristiques. Le plus grand donc de tous les amours, c'est l'amour agapé. Et nous devons nous le manifester les uns les autres. Je vous remercie. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes révélations. Merci pour cet amour agapé que tu nous révèles. Merci parce que tu nous demandes, Seigneur, et pour notre meilleur, tu nous demandes vraiment de nous abandonner à toi, de nous abandonner à ta parole et de manifester cet amour profond que nous avons à la fois pour toi et à la fois pour le reste du corps. Merci, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs, de disposer nos esprits. Merci de nous transformer, de nous compléter, Seigneur, afin que tous autant que nous sommes, nous puissions avancer, nous puissions progresser, Seigneur. Comme le disait Marc tout à l'heure, que nos progrès soient visibles les uns pour les autres, les uns par les autres. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu accomplis.
Alléluia.
Je t'en remercie dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.